Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes jusqu'à 13h30 sur FPP 106.3 FM. Et en cette émission du lundi 10 mars 2025, et en cette période où le gouvernement ne cesse de nous parler de la question de la guerre et du financement de cette guerre, nous avons décidé de parler du soin, du financement du soin et de son état. Pour cela, en cette émission, vous entendrez plusieurs interlocuteurs qui font partie de la coordination des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité et qui participent d'un bulletin d'information sur la santé publique. On vous laisse tout de suite écouter notre premier intervenant et on revient ensuite dans l'actualité des luttes.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean, de la maternité de Remiremont.
Je travaille pas à la maternité, je suis le président de l'association, enfin du collectif de défense, mais c'est une association qui s'appelle ADEMAT.
Dans cette association, il y a à la fois des soignants, mais aussi des usagers.
Oh ben, il y a essentiellement des usagers et 70 à 80 municipalités qui sont adhérentes, collectivités territoriales, dont toutes les municipalités du pays de Remiremont.
Est-ce que tu pourrais nous faire un état des lieux de l'hôpital dans votre région ?
Alors, l'hôpital de Remiremont est situé aux confins de plusieurs vallées, qui sont des anciennes vallées glaciaires, qui desservent, l'hôpital dessert la montagne sud du massif des Vosges. Et donc, il rayonne également géographiquement sur le nord de la Haute-Saône. Parce que il y a des limites géographiques, mais il y a le territoire géographique et il y a les limites administratives. Et la Haute-Saône, elle fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté.
D'accord. Ça concerne combien d'habitants, du coup ?
Ça concerne plus de 100 000 habitants, voire 130 000. Et nous, on dit ça concerne presque le tiers de la population des Vosges, quoi. Donc, et c'est l'équivalent d'une métropole. Donc il y a eu une première attaque contre cet hôpital. Enfin, il y en a déjà eu avant, hein, mais la plus notoire remonte à janvier 2016, où il était question de fermer la maternité parce que dans les bureaux parisiens, on avait décidé qu'il ne pouvait pas y avoir deux maternités privées à Épinal, enfin une maternité privée et une publique à Épinal et une troisième publique à 30 km de là. Sans tenir compte que les populations qui fréquentent la maternité de Remiremont sont au-delà de ce périmètre de 30 km et viennent des vallées, quoi. Donc, et pour certaines, sont déjà à presque trois quarts d'heure de Remiremont en voiture, surtout quand les conditions météo sont défavorables. D'accord. Donc voilà, cette lutte-là a abouti, la maternité a été maintenue, c'est la maternité privée, parce que les privés, de toute façon, ça ne les intéresse pas, les maternités, c'est pas rentable, et ils s'en sont séparés, et ils l'ont redonné au service public. Okay. Moyenne en quoi, ils ont quand même obtenu deux services très lucratifs, la néphrologie et la dialyse en contrepartie. Voilà, pour la petite histoire, enfin, le début de l'histoire, qui a vu la création donc, d'un comité de défense de la maternité de Remiremont, qui s'est transformé rapidement en association à l'automne 2016, donc ça fait 9 ans maintenant, et en association de défense, de maintien et d'amélioration de la maternité de Remiremont. Puis on a ajouté un H, on a fait un cycle qui s'appelle ADEMAT, et on a ajouté un H pour dire qu'on défendait aussi l'hôpital dans notre histoire, parce que je vais y arriver.
Ouais, le public.
Il y a eu d'autres attaques, et puis en même temps... on a visé une réflexion territoriale de l'accès aux soins, et donc on défend l'accès aux soins pour tous et partout, avec le service public hospitalier. 2018 arrive, 2018 fermeture de la cardiologie à Remiremont, ensuite fermeture de l'urologie en 2020 ou 2021, suppression d'un certain nombre de lits en diabétologie, au moins une quinzaine. Il y a eu des déplacements de personnel, enfin voilà les remises en cause auxquelles on a eu à faire face au cours de toutes ces années, avec des contrats de performance qui prévoyaient d'arriver à l'équilibre financier, parce que tous les hôpitaux publics sont asphyxiés financièrement, et qui prévoyaient X suppression de personnel et X économies, qu'on a plus ou moins mis en échec, et que puis il y a eu la crise Covid qui a obligé aussi à abandonner quand même un certain nombre d'objectifs de la part de l'administration. Et puis arrive quand même fin 2023. Les urgences sont fermées la nuit et ne sont pas rouvertes depuis le 1er janvier 2024. Au courant de l'année 2024, on a fermé le service de néonatologie et la rétrogradation de ce fait de la maternité qui était niveau 2 en niveau 1. Et on sait que la maternité de Remiremont est dans le viseur de l'administration, qu'il y a un projet médico-soignant partagé qui vise à rassembler les maternités du département sur Épinal. Il y a une dégradation continue.
Il y a une volonté d'abord de dégrader avant de fermer pour faire accepter la chose à la fois par, j'imagine, les soignants et aussi la population.
Oui, alors au début, le levier, il était financier, essentiellement. Et puis maintenant, il y a un argument en béton, si je puis dire, qui fait que tout le monde est désemparé. Mais enfin, bon, il y a quand même quelques solutions. Enfin, il y aurait quelques solutions sur le plan politique. Il n'y a plus de médecins. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Il y en a encore, heureusement. Et le problème, c'est qu'ils sont tous attirés par les structures privées, voire les regroupements, parce que les questions des gardes et astreintes, pour ceux qui sont encore attachés au service public et qui veulent y rester, leur pèsent fortement, puisque bien souvent, ce sont des équipes dégradées qui fonctionnent, notamment dans les urgences ou dans des services comme ça. Et à ce moment-là, ils aspirent quand même à avoir des conditions de travail à peu près correctes. Et puis il y a le privé à but lucratif qui attire fortement parce qu'ils ne sont pas soumis aux astreintes et aux gardes, donc à ce qu'on appelle la permanence des soins. Et puis les niveaux de rémunération sont plus conséquents et ils appliquent en plus des droits à dépassement qui des fois sont quand même très élevés et donc font que une partie de la population n'a plus accès aux soins quoi. Et en plus sont éloignés, sont bien souvent regroupés dans les centres-villes à Nancy. Et à titre d'exemple, dans les Vosges actuellement, ils ont constaté que entre 2018 et 2023, si je ne me trompe pas, enfin c'est sur ces années-là, la fuite des patients vers les plateaux techniques nancéens a profité à 8% au service public, le CHU, à 42% au groupe Pasteur, qui est privé à but lucratif, et à 49%, quasiment 50%, au groupe Elsan, qui appartient au fonds d'investissement américain KKR. Donc on voit bien que, y compris ce groupe-là, est de plus en plus financiarisé. Alors que c'est une financiarisation de la santé. Et donc, c'est un écrémage de la population, si on veut avoir accès aux soins, etc. Donc ces gens-là, pour faire face à cette hausse d'activité, ils trouvent bien des médecins. Ils n'ont pas forcément de problème d'attractivité et de recrutement.
Ce serait quand même relativement logique que ce soit l'État qui désigne en fonction des besoins des territoires et pas du tout en fonction des intérêts individuels de ces professionnels.
Oui, c'est la question de la liberté d'installation.
Ouais, les libertés pour qui, quoi ?
Nous, ce qui nous semblerait important, et au titre de la coordination nationale, je pense que mes collègues le développeront également, c'est qu'on dit que les étudiants devraient être salariés moyennant un contrat d'engagement de service public, quoi, pendant un certain nombre d'années à négocier. Quoi. Puis il faut ouvrir le numerus clausus, augmenter les places dans les universités. Vu le nombre de départs en retraite qui arrive, là, nous on pense qu'il faudrait multiplier par 1,5 voire 2 le nombre de places actuellement dans les facultés, si on veut faire face
à la demande.
À la demande et à l'avenir.
On va revenir un peu à cet hôpital de Remiremont. Comment la direction de l'hôpital a réagi, quelle a été son attitude et aussi celle des pouvoirs politiques en place? Vous avez été soutenu
par les élus locaux, notamment les maires. Il y a un accord sur les principaux objectifs de l'association, qui sont l'accès aux soins pour tous et partout et la défense de l'hôpital. Ils participent à nos manifestations. Après, à titre d'exemple, on a rassemblé quasiment 3000 personnes le 9 mars 2024 dans les rues pour dire « il faut un hôpital complet à Remiremont pour les gens de la montagne sud », donc y compris le nord de la Haute-Saône. Il y avait les élus avec nous. On a mis en objectif d'obtenir, d'avoir une rencontre avec la préfète, parce que c'est la représentante de l'État dans le département. C'était la conclusion de la manifestation. On a pas eu de réponse. Quand on a approché les services de la préfecture, on nous a dit « mais les élus ont demandé une réunion de ce type ». On a dit « attendez, on avait souhaité que ce soit en commun, on voudrait être associés ». Bon, on a eu bien du mal à être associés et la réunion a eu lieu 2 mois après et puis il n'a abouti à rien, quoi. Et puis on se rend compte que c'est là la difficulté quand même des mouvements, hein, c'est que même si localement on arrive à avoir des mouvements puissants, on n'est pas entendu, quoi. Voire ils nous ignorent. Et là, on a constaté dans toute la dernière période qu'on essayait un peu de nous invisibiliser, quoi. On avait des banderoles qui étaient attachées devant les murs de l'hôpital, les grilles de l'hôpital. Le directeur a décidé de les enlever. On les a remises ailleurs, hein, dans les villages. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça, quoi. Pour la première fois, hier soir, on a rencontré le directeur qu'on n'avait pas vu depuis plus d'un an, quoi. 14 mois exactement, quoi. La difficulté, après, c'est comment, au niveau de notre pays, ces enjeux de santé, qui sont une des préoccupations majeures, sinon premières, de la population, deviennent vraiment fédérateurs pour un mouvement très puissant, quoi. Et après, on touche à des questions de fond qui est la sécurité sociale, le financement de la sécurité sociale, dont il faut augmenter les recettes. Et là, on sent que l'ensemble du mouvement social a quand même du mal à se mettre d'accord.
Il y a vraiment une volonté de la part de l'État de privatiser l'ensemble des services publics.
Et c'est ce qui transparaît à travers toutes les décisions qui sont prises, effectivement, quoi.
Est-ce que vous avez réfléchi, du coup, entre vous, à comment être à nouveau visible, entendu et suffisamment nombreux pour peser ?
Le rapport de force ici, je pense qu'il est potentiellement existant. Mais après, il n'est pas suffisant parce qu'il faudrait l'étendre à tout le pays, quoi. Et il y a des petites poches comme ça, ici et là, nombreuses. En région Grand Est, Alors, c'est un contexte encore beaucoup plus, bien plus différent, mais sur Chaumont, quoi, et Chaumont-Lang, ils ont quand même réussi, fin 2023, à rassembler 6000 personnes. Un an après, ils en rassemblent 1500. Alors bon, les objectifs sont, ils chamaillent entre eux, entre le maintien des hôpitaux existants et leur amélioration et la reconstruction d'un autre hôpital. Bon, enfin, c'est un peu compliqué.
Ouais. Et vous en pensez quoi de ça? Est-ce que il vaut mieux conserver des petits hôpitaux un peu partout comme ça sur le territoire, peut-être avec des grosses structures très équipées?
La proximité, quoi. Ouais, ouais. Et on avance vers une médecine de plus en plus technologique, ouais. Y compris, nous on pense qu'il faudrait des chirurgiens polyvalents pour faire des choses courantes, quoi, mais dans les hôpitaux de proximité. Le fondement de la sécurité sociale, c'est quand même que chacun doit contribuer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. Donc c'est bien là qu'on touche la question de fond. Du financement, de l'augmentation des recettes de la sécurité sociale, quoi. Et d'aller vers une prise en charge, nous on milite pour ça, une prise en charge à 100%.
C'est vrai, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu là-dessus? Même si encore et encore heureux, hein, la sécurité sociale permet quand même de se faire soigner encore aujourd'hui en France, et plutôt pas mal. Mais là, c'est plutôt vers où on va si on ne bouge pas, si on continue pas à se battre pour un service public de santé accessible à tous.
La réponse, c'est le service public, parce que son but, c'est pas le profit, c'est la satisfaction des besoins. Mmh. C'est quand même les fondements. Mmh. Et après, il y a tout le problème de sa gestion aussi, du service public, quoi. Ouais. Il y a quand même des lourdeurs énormes pour l'adapter, enfin, pour que d'une part, les citoyens puissent être impliqués dans la manière dont l'administration tente de vouloir répondre à leurs besoins, quoi. Alors, l'ARS n'a que à la bouche que le mot de démocratie sanitaire. Mmh. Autant c'est extrêmement complexe, lourd. Enfin, toutes les instances qui existent sont des instances qui sont très chronophages d'une part, voire très techniques, et où on n'émet que des avis, quoi. Il y a les groupements hospitaliers de territoire qui existent maintenant. Ça a été créé en 2016. Le but, c'est de mutualiser, enfin, au départ, c'était de mutualiser quelques fonctions support comme l'informatique, les achats, etc. Et puis, de plus en plus, on voit que c'est la nécessité, enfin, la volonté d'avoir un pilotage départemental, par exemple, du dispositif hospitalier, avec ce qu'ils appellent la gradation des soins. Et en fait, on s'approche d'une dégradation, quoi. Donc, il y a une commission territoriale des élus. Ce n'est qu'un avis technique qu'elle donne. Enfin, ce n'est qu'un avis, quoi. Ouais. Et elle est convoquée une fois de temps en temps. Ils balancent un diaporama arrangé à leur manière. Si on ne prend pas le temps et qu'on n'a pas un œil expert pour être conseillé, enfin entouré par des yeux experts, bien souvent on se fait bananer, quoi. Enfin, ils nous emmènent là où ils veulent, quoi.
C'est sûr, mais il y a quand même des professionnels, j'imagine, qui sont pas seulement intéressés par l'appât du gain et qui pourraient être des aides précieuses sur les choix à faire.
Ce qu'il faudrait, c'est des instances territoriales qui aient des vrais pouvoirs de décision avec les élus et les savoir-faire pour le mettre ça en place, hein, mais il n'y a pas la volonté politique, quoi.
Et je voulais te demander une autre chose, c'est quoi le projet médico-soignant partagé?
Chaque établissement doit avoir un projet médical, et au niveau des GHT, des groupements hospitaliers de territoire, maintenant, il y a la nécessité, enfin, c'est une obligation, d'avoir un projet médical, enfin c'est médico-soignant, partagé. Alors, les grands mots, ils l'ont mis en place là. Je ne crois pas que l'ARS ait encore rendu son avis à ce sujet d'ailleurs, mais Il est passé par toutes les instances. Normalement, un projet médical, c'est fait pour répondre aux besoins de la population. Et là, on s'aperçoit qu'on en a détourné le sens. La volonté, c'est de regrouper les plateaux techniques parce que la démographie médicale est en tension. Et puis de transformer les hôpitaux périphériques plus ou moins en centres gériatriques améliorés ou en EHPAD améliorés. Enfin.
Est-ce que ce serait pas intéressant aussi, histoire d'être un peu plus nombreux et plus forts, de poser la question tout simplement des services publics d'une manière générale, d'essayer de regrouper l'ensemble, même si ça ne dépend pas des mêmes caisses, évidemment. Mais il y a vraiment un service public qui se dégrade à tous les niveaux. Et on a l'impression de vivre dans tous ces secteurs-là la même réalité. Hein, et pourtant, chacun part toujours en ordre dispersé.
Nos amis de la Haute-Saône sont en comité de vigilance de défense des services publics. Donc, ils englobent l'ensemble. Quoi.
Ouais.
Ils essayent d'englober l'ensemble. Bon, nous, on est resté focalisé et on restera focalisé là-dessus, sur la défense de l'hôpital et l'accès aux soins. Il y a déjà tellement à faire dans ce domaine-là pour comprendre ce qui se passe. Bon, je suis bien d'accord qu'il y a une globalité, hein, mais notre audience, on l'a fait parce qu'on reste sur notre propre champ, quoi. Et puis, il y a un moment donné, ça renvoie à des choix politiques nationaux.
Ben oui.
Et là, moi, je pense que le mouvement associatif, c'est plus de sa compétence. C'est de la compétence des partis politiques et c'est à eux de jouer leur rôle. De toute façon, tout le monde fait de la politique dès lors où on dit qu'il faut défendre les services publics ou qu'on a une opinion, je veux dire. Ça touche à l'organisation de la cité, donc voilà. Le service public hospitalier, ou les services publics, mais bon, le service public hospitalier, c'est un bien commun, il faut le défendre, et la santé, c'est une préoccupation majeure de chacun d'entre nous, quoi qu'on pense, ça commence avant la conception, et ça va quasiment au-delà du dernier souffle. Alors, donc, il y a quand même moyen de se regrouper à partir de là, quoi, pour faire valoir nos besoins, nos aspirations. Comme action qu'on essaye de mener, là aussi, c'est toute une réflexion sur l'accès aux soins autour de la création d'un centre de santé territorial. La semaine qui arrive, c'est d'arriver à faire une étude de faisabilité, payée, puisque l'ARS a des fonds prévus pour ça, tant pour faire des centres de santé que des maisons de santé. Et nous, on dit, il faudrait qu'on puisse faire une étude de santé, une étude de faisabilité pour créer un centre de santé. L'ARS nous a répondu, il faut trouver une collectivité qui soit porteuse du projet. Donc, on va s'adresser officiellement dans les jours qui arrivent au pays de Remiremont. Il y a quand même beaucoup de professionnels qui sont intéressés par le salariat. Donc, c'est aussi un moyen de faire face à la désertification médicale. Et nous, globalement, nationalement, on prône, comme il y a le service public hospitalier pour les soins le curatifs, on prône qu'en premier recours, il y ait un service public par le biais des centres de santé répartis équitablement sur le territoire et pas en concurrence les uns par rapport aux autres. Et que ce soit vraiment la réponse pour l'accès aux soins de premier recours.
Ben merci beaucoup et puis bon courage
sans
à vous.
Et vous êtes toujours dans l'actualité des luttes jusqu'à 13h30 sur FPP 106.3 FM et nous continuons notre tour d'horizon des comités de défense, des hôpitaux et maternités de proximité avec un second interlocuteur.
Je suis un militant nantais de la Ligue des droits de l'homme et qui participe au collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et toutes, qui est né en 2003, pour défendre l'aide médicale d'État, déjà en 2003.
D'accord.
Bon, voilà, et qui rassemble actuellement une quinzaine d'organisations, à la fois des associations telles que la Ligue des droits de l'homme, ou la Confédération syndicale des familles, ou le planning familial, et puis des organisations syndicales telles que la CGT ou Sud Santé Sociaux Solidaire, et le syndicat de médecine générale, et puis des parti politique, la LFI et la GDS, qui est maintenant l'après. Bon, voilà. Bon. Et puis, donc, on a adhéré à la coordination, alors je crois que c'est en 2012 ou 2013, et donc maintenant, je fais partie du conseil d'administration et du bureau de la coordination, dont je suis le trésorier déjà depuis quelques années. Voilà, et la coordination elle-même est née en 2004.
T'es un ancien professionnel de la santé aussi.
Alors, moi, je suis un ancien praticien, hospitalier retraité. Du CHU de Nantes, enfin je l'ai exercé aussi ailleurs avant, mais enfin principalement toute ma carrière principale était à Nantes, en tant que à la fois anesthésiste réanimateur et urgentiste, les deux, j'ai deux casquettes, et je militais au syndicat national des praticiens hospitaliers en anesthésie réanimation.
Dans cette coordination, il y a visiblement autant des professionnels que des usagers, et du coup ça permet de balayer les besoins et d'y répondre d'une manière plus fine.
Principalement, justement, ce sont des non-professionnels de la santé. Et je trouve que c'est intéressant, effectivement, de travailler ensemble, de militer ensemble, avec nos différentes approches, nos différents points de vue, et qui permet à la fois la nuance, mais aussi le fait que c'est un combat citoyen, c'est une bataille citoyenne. C'est pas... une bataille des revendications revendicatives des professionnels de santé qui, pour beaucoup, et nous ça nous titille un peu, voudraient s'approprier le droit de régenter l'organisation des soins et de la santé. Et ça, pour nous, ça n'est pas concevable. C'est vraiment aux citoyens et aux citoyennes de penser l'organisation, notamment l'organisation des soins, mais aussi la possibilité d'accéder à la santé. Les soins, enfin, font partie des moyens d'accéder à la santé, mais ne sont pas les seuls. La qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité du travail,
la nourriture,
des transports, de l'alimentation, tout ça, ça y participe bien évidemment. Donc c'est très intéressant cette confrontation, justement, et il y a des convergences entre les revendications des soignants, mais aussi tous les citoyens, et les revendications, elles sont convergentes, mais pas obligatoirement. Et on le voit bien dans la situation actuelle de pénurie de soignants, où les revendications des soignants ne sont pas convergentes avec les besoins de soins de la population. Par exemple, la régulation. La régulation de l'entrée aux urgences est un non-sens sur le plan du droit aux soins. Ça va entraver l'accès aux soins d'une partie de la population, la partie la plus précaire, celle qui a des difficultés à formuler par la parole sa demande de soins. La multiplication des barrières fait que elles sont infranchissables pour eux. Et donc, ça aboutit à une absence de soins. En revanche, pour les soignants qui se retrouvent en situation de pénurie de moyens humains pour accueillir les personnes, pour accueillir les patients blessés ou malades, c'est une façon de se protéger en disant attendez, nous on n'en peut plus quoi. Ça s'entasse. C'est la raison pour laquelle nous avons pointé du doigt, d'ailleurs, dans notre bulletin. On a fait bien attention à la bataille syndicale qui s'est menée par les soignants, justement les personnels de, si ma mémoire est bonne, c'est de Villeneuve-Saint-Georges, dernièrement, qui a réclamé non pas la régulation des entrées aux urgences, mais des moyens pour accueillir tout le monde.
Carrément.
Et ça, c'est ça. Et là, on peut converger avec ça. Ça éteint les revendications des soignants. Qu'est-ce que deviennent les patients à qui on dit aller voir ailleurs? Actuellement, personne ne le sait. Alors que tout ne soit pas fait aux urgences, etc. Ça peut se concevoir et ça peut s'organiser. Mais à partir du moment où il y a une effectivité de l'autre réponse, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le principal problème aux urgences, c'est pas les malades ou les blessés qui viennent là et qui pourraient être soignés ailleurs. C'est les malades qui doivent être hospitalisés et qui ne peuvent pas l'être faute de place dans les services.
Bien sûr.
Et qui restent sur des brancards des heures et des jours aux urgences. Et c'est ça qui est inadmissible. Et avec le fait que il y a une destruction, une fermeture réelle de tout de beaucoup de services, notamment d'urgence, mais pas que, dans les hôpitaux de proximité, qui ne sont pas des petits hôpitaux, mais qui sont des hôpitaux qui sont à proximité des gens et qui aboutissent à un engorgement des gros centres. Mmh. On concentre les problèmes, on ne les résout pas. Je viens d'apprendre, en lisant le journal ce matin, que dans le département de la Mayenne, 3 jours par semaine, il n'y aura pas de SMUR du tout. Il y a 3 hôpitaux, hein. Mmh. Il y a Château-Gontier, Mayenne et Laval. Et bien, et dans aucune de ces structures, il y a de SMUR fonctionnel. C'est-à-dire que pour tout un département, il n'y a plus de SMUR. Et le service des urgences de Laval a déjà été fermé plusieurs fois, on en a entendu parler, quoi. Mmh. Chef-lieu de département, quoi. Puis c'est pas une petite ville, Laval. Mmh. Voilà. Il y a plus. Donc là, on régule quoi? C'est très anxiogène. Mmh. Très anxiogène. Et là, à tel point que le premier maire, c'était en Vendée, a cru... qui a pris un arrêté municipal il y a quelques années.
Effectivement, c'est être bien logé, c'est aussi correctement se nourrir, c'est aussi être correctement éduqué aussi. voilà, enfin, c'est tout ce qui contribue au bien-être et à l'émancipation de chacun. Je crois que là-dedans, on est effectivement, ce qu'on peut constater, c'est des fractures de plus en plus grandissantes au sein de la société, qui évidemment nous inquiète, mais sur lequel on essaye d'agir avec, en même temps avec volontarisme et optimisme, parce qu'il n'y a pas de raison.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.